Alors, Pierre-Yves, j'avais bien hâte d'entendre tes commentaires sur le rendement 2018 de la Caisse de dépôt et placement, un rendement de 4,2%.
Évidemment, quand un cut-off, une démarcation en fin d'année, après une année catastrophique d'octobre à décembre au niveau des placements en actions pour tout le monde, pas seulement la Caisse, c'est normal que ça baisse. Mais ce que la Caisse doit être contente, Paul, c'est les infrastructures. Les infrastructures et les placements immobiliers ont sauvé un peu le rendement de la Caisse et aussi les placements privés. Parce que si on s'était maintenu dans des placements autres, genre titres à revenu fixe ou bien simplement des actions, on aurait un rendement bien inférieur. Les deux secteurs qui ont vraiment sauvé la Caisse, l'actif réel, c'est-à-dire Ivanhoé Cambridge et le rendement immobilier, bien qu'ils soient en bas des attentes un petit peu, hein, mais au niveau de l'infrastructure, la fameuse refonte de la loi qui a permis à la Caisse de dépôt et placement d'aller investir dans des infrastructures, ce bout-là a donné 11,2% et a tiré à la hausse le secteur actif. Et si on va voir le secteur action, mais c'est vraiment ce qu'on appelle les placements privés, là, le private equity, qui a tiré à 16,6%, littéralement sauvé le portefeuille. Donc, on voit vraiment que des fois, l'espèce de diversification dont on parle souvent, ben c'est ça. Puis Magro Sebia a dit, il y a 2-3 ans, il avait dit, on veut une stratégie comme un véhicule tout-terrain. Moi, j'avais appelé ça la stratégie Subaru Outback. Tu sais, une voiture performante, mais qui ne fait pas des grandes pointes de vitesse parce qu'on manque d'aérodynamisme, mais qu'on n'est pas non plus écrasé par du tout-terrain. Donc, c'est un peu pareil. On dit, on va aller faire du rendement quand il y en a à faire, mais on veut pas non plus être vraiment perdant quand on n'en a pas, surtout avec les risques géopolitiques et la volatilité. Donc, on va investir dans la santé, les services financiers, les technos, l'industrie durable et on va aller chercher du rendement dans des titres de qualité. Et on a répété et martelé des titres de qualité. Et pas des titres de qualité, c'est des titres qui donnent des flux de trésorerie, des gains à long terme. Alors, la Caisse, c'est vraiment là-dedans. Mais évidemment, si on prenait une lecture de la Caisse au 31 janvier, ce serait beaucoup mieux déjà parce qu'on aurait profité de la remontée de la bourse.
Ça, c'est sûr, comme tout le monde. Là où la participation est de 20 % dans SNC-Lavalin, mais forcément, la Caisse a traîné ça comme boulet aussi avec toutes les actualités des derniers mois.
Mais on avait, je vais t'avouer, je vais faire une petite confession, Paul, moi aussi j'avais acheté du SNC-Lavalin lors de la descente en me disant, c'est un titre de qualité, c'est une entreprise qui peut vendre à travers le monde, il peut y avoir des gains. Donc on a martelé ce message-là, on ne laisse pas tomber un titre parce qu'il vit des périodes de turbulence. Quand on est à la Caisse, une vision extrêmement long terme avec des déposants qui ont des visions sur 20, 25, 30 ans, justement, quand on augmente sa capacité, si jamais même il y a une opportunité d'augmenter le pourcentage de participation, s'il y a une opportunité d'affaires, on pourrait y aller. T'sais.
Alors, Marie-France nous a exposé, nous a mis la table sur ce grand exode vers le 4-5-0. Mais moi, ça ne me surprend pas. Il me semble que ça fait des années. Donc, on parle tout le temps, depuis des années, que c'est trop cher à Montréal pour ce qu'on peut obtenir par rapport à la banlieue dans le 4-5-0.
C'est vrai.
Les coûts de renonciation.
Oui. Premièrement, j'en ai des amis qui font partie des gens de l'exode. Et on dit, mais l'arbitrage n'est pas assez grand. Tu sais, il y a trop de différences de prix entre Montréal et les banlieues parfois pour justifier de payer plus cher. Par exemple, une maison à Repentigny va vous coûter 300-350 000 et vous arrivez à Montréal et vous allez payer 600, 700, 750, 800 pour une maison de ville. Alors, effectivement, dans un arbitrage, on peut faire ça. Par contre, disons-nous que si votre mode de vie, c'est deux personnes qui s'en vont à Montréal chaque jour, si vous avez deux voitures, vous ne faites pas, la désintégration de la valeur dans la voiture, elle est grande. Tu perds tout ce que tu as. Tu perds la voiture, l'essence. Tout ça, c'est de l'argent gaspillé. Tandis que ta maison, oui, tu as passé ta vie à la payer, mais le gain en capital est non imposable. Tu as une exemption pour résidence principale intéressante. Et en plus, si vous avez un immeuble à revenu, vous pouvez amortir. Mais tout est une question de financement. Si les familles quittent, parce que Montréal a beaucoup de déficit d'investissement. Vous achetez un immeuble de 500 000 dans un quartier pseudo-central. Là. À partir du sol olympique vers le centre-ville, vous payez 500 000. Vous avez souvent un toit à refaire, maintenant avec une membrane. Vous voulez refaire l'entrée de garage, il faut avoir du pavé uni pour réduire l'exposition au soleil. Vous devez avoir aussi refaire les fenêtres, refaire l'égout. Fonçage de pieux, 50 000. Donc, c'est vrai que pour une famille, si vous achetez un immeuble à 400-500 000, vous allez peut-être mettre un 200-300 000 de réno. Alors oui, pour des salaires moyens, le coût est énorme. Si vous n'êtes pas un rénovateur, un manuel, si vous n'avez pas des capacités de paiement, je ne dois pas blâmer une famille qui se dit « je veux une vie avec de l'espace, mais je n'ai pas les moyens de payer tout de suite » parce que ce qui est dur, c'est le financer. On peut le financer, mais ça coûte tellement cher. Par contre, quand on y pense, quand on nous parle de qualité de vie puis de terrain, le pourcentage d'utiliser votre terrain en banlieue n'est pas si grand que ça. Et oui, à Laval et sur la Rive-Sud maintenant, vous avez des maisons avec des 3500, 4500 pieds carrés de terrain qui existe dans le Vieux-Rosemont, qui existe dans l'Est, qui existe en Anjou. Donc, ce n'est pas nécessairement l'espace, mais c'est vraiment le prix, paiement mensuel. Hein. On est à bout de souffle, on est au bout de nos ressources, c'est ça. Par contre, l'argent investi à Montréal se capitalise, l'argent payé en banlieue est moins grand. Donc, si votre maison vaut deux fois la valeur, le gain en capital est plus grand en pourcentage, mais pas en pourcentage, mais en valeur, et vous avez une meilleure retraite basée sur l'actif. Hein. C'est une question de choix. Si vous épargnez la différence dans votre compte REER ou CELI, qu'est-ce que vous voulez? C'est un choix.
C'est un choix. Ouais. Quand Hydro-Québec nous rend fiers... Oui. Société qui rend fière.
Moi, pas, je te ramène à des années.
Non, mais c'est vrai.
Moi, là, je suis un citoyen de fierté. Et à l'époque où Jean Charest avait tenté d'acheter tout ce qui se passait dans l'Est du Canada avec Nouveau-Brunswick, puis ça n'a pas fonctionné, j'étais excité. Je disais, on va dominer quelque chose par notre puissance énergétique. Mmh. Et là, on dit, on a réussi à négocier pour 170 millions un passage vers des États américains pour permettre à Hydro-Québec d'aller faire des flux monétaires. Là, les gens disent, oui, mais 170 millions, oui, on paye, mais on paye une vanne, on paye un investissement qui nous permet d'aller vendre, exporter l'électricité. Certains disent, oui, mais on exporte déjà. Oui, on exporte, mais on exporte du court terme. Mais quand on est capable de signer un contrat de 10, 15, 20 ans avec un État américain, avec une marge énergétique, c'est-à-dire que tu regardes ton coût d'énergie, tu regardes le revenu, puis tu crées ce qu'on appelle un cash flow régulier. Parce qu'il ne faut pas oublier. Faut pas oublier que Churchill's Falls, c'est fini. On a fait de l'argent sur Terre-Neuve. On a même, on peut le dire, pas off the record, on les a eu pas à peu près.
Pas
là.
Et pas à peu
si je suis à Terre-Neuve, je suis choqué. Et là, ils sont en train de se liquider dans un projet à perte. Donc, pour les Québécois, ce qui est en train de se faire, c'est d'exporter nos ressources. Et ça, c'est, moi, je trouve, Paul, que c'est un grand sentiment de fierté et de puissance énergétique. Et le Québec, on dit souvent qu'on est comme une espèce de victime ou une espèce de profiteur de péréquation. Et là, on va créer de la valeur, puis on va exporter ça, on va créer un dividende, ça va s'en venir dans nos poches, puis on va se dire, nous sommes une nation d'énergie. Alors, c'est spectaculaire.
En ce 21 février, mesdames, messieurs, vous avez peut-être entendu le premier discours politique du futur candidat Pierre-Yves McSween.
Le Parti énergétique du Québec.
Le Parti énergétique du Québec.
Le PEC.
C'est pas pire, ça. Hein? Ça, j'aimerais ça être un de tes candidats.
Parfait.
Merci beaucoup, Pierre-Yves.